sur la conférence de presse de son patron Jerome Powell à partir de 20h30. C'est la première fois qu'il prend la parole depuis que les chiffres de l'inflation pour le mois de mai sont tombés. Une inflation de 5% sur un an. La question est de savoir si cette hausse est vraiment transitoire. Il va d'ailleurs devoir définir le terme transitoire. C'était Céline Pentex, investir pour RFI.
Merci Céline Pentex. Enfin, il y a du football à suivre ce soir au lendemain de France-Allemagne. Point d'orgue de la première journée de l'Euro. La deuxième journée de la phase de groupe débute aujourd'hui et peut déjà envoyer en huitième de finale l'Italie qui reçoit la Suisse et la Finlande attendue en Russie. RFI 18h et bientôt 10 minutes à Paris.
Radio G 101.5 FM.
Et bonsoir à toutes, bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales sur Radio G. On est mercredi et c'est le jour où on retrouve le prêt-à-penser, la chronique psychologie de Nicolas. Aujourd'hui, il sera question de l'éventualité de peut-être rembourser les séances chez les psychologues. La question n'est pas si simple, on verra tout ça avec Nicolas en deuxième partie d'émission. Avant cela, nous aurons le plaisir de retrouver des invités, sans doute abattus par la chaleur, comme vous et moi, pour un festival estival à retrouver les jeudis du 22 juillet au 5 août. 7 jeudis pour 7 propositions alliant spectacle vivant, lieu du patrimoine, musique et producteurs locaux à Loire-Authion et Brissac-Loire-Aubance. On voit ça en détail dans quelques minutes. Derrière la console, c'est comme chaque soir Anneli et la citation proverbe du jour est... Si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, cela se fera. Alors, on dit que c'est Charles-Alexandre Calonne qui l'a dit à Marie-Antoinette. Je n'ai pas plus de contexte parce que j'ai pas du tout bossé la partie historique, mais je pense que ça peut toujours faire son effet un jour ou l'autre. Pour ouvrir l'émission, j'ai choisi le dernier titre de Jacques, qui fait de la musique électro assez décalée. Le titre s'appelle « Vous ». Je vous invite à aller voir le clip si vous avez envie de bien comprendre toutes les paroles. je vois que ça fait réagir en studio, j'espère que ça vous plaira. On écoute « Vous ».
De faire partie de vous. soir, je suis content de faire partie de nous.
Et pour nous guider dans la programmation du sous-marin, qui est donc notre invitée ce soir, je reçois Anne-Claire Joubert, directrice artistique. Bonsoir Anne-Claire.
Bonsoir.
Et Quentin Mousserion, qui est de l'équipe artistique aussi. Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Tous les deux de la compagnie du Poulpe, bien sûr. Alors le sous-marin, c'est la deuxième édition. Je rectifie la bêtise que j'ai dit en intro. C'est du 1er juillet au 12 août, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Merci. Et c'est vraiment un croisement de plusieurs arts, de plusieurs disciplines. J'ai évoqué la musique, le spectacle vivant. Il y a des producteurs locaux, des lieux de patrimoine. Pourquoi c'était important pour vous de mélanger tout ça?
C'est la suite logique de la première édition, où la première édition, on a vraiment, suite à un festival qu'on avait fait, le festival Sans Transition à Saint-Lézin, on avait réfléchi, le festival posait la question de que feraient les artistes si la société s'effondrait. Donc on a essayé de trouver des solutions pratiques à ça, et donc on a fait notre premier festival chez nous, et en fait on a voulu pousser les curseurs un peu plus loin et se dire comment on peut réunir les gens, que ce soit des artistes, des producteurs, des artisans, dans des lieux pas très loin de chez eux, et si possible des beaux lieux qui ont quelque chose à transmettre, de l'ordre soit du patrimoine, de la culture ou des traditions, ou en tout cas de l'identité locale.
Et c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de faire le lien entre une programmation artistique, d'invitation à des compagnies, et puis aussi des valeurs, des enjeux qui sont pas forcément associés immédiatement ou habituellement. Il y a aussi des valeurs de solidarité, des questions écologiques qui se posent à vous. Vous, un peu, comment vous le présentez en termes de valeurs, ce festival, le sous-marin ?
C'est un festival en économie sociale et solidaire. Alors ça, c'est le mot qui sert pour les dossiers beaucoup, mais dans les faits, je dirais que c'est un travail collectif, en fait, parce qu'on n'est pas que tous les deux à organiser le sous-marin. Il y a plein d'autres coordinateurs avec nous. C'est un projet vivant qui fait vivre le territoire, en fait, et tous les producteurs, enfin, au-delà de la solidarité, il y a un échange de matériel, par exemple, c'est aussi des valeurs de circuit court, d'économie courte, de local, de consommer près de chez soi, de consommer, même consommer, non, c'est pas consommer la...
De recevoir ou de...
Ouais, de recevoir
de
et puis d'accueillir aussi des artistes locaux, en fait, de se rendre compte qu'il y a un vivier local artistique très fort et d'en profiter, et puis de donner envie aux gens de programmer, par exemple, dans leur jardin, en fait, qu'il y a une autre culture qui est possible. Donc on brasse, en fait, tout ça.
Ouais.
Et aussi, on a voulu rendre le festival patrimonial parce que... on porte l'idée que voyager près de chez soi, c'est possible, et qu'il suffit de changer ses lunettes pour se rendre compte que cette place, en fait, elle était très jolie, et je la redécouvre avec ce festival, et donc et pourquoi pas voyager dans ma région, en fait.
Il y a l'idée vraiment d'avoir de la culture de proximité aussi, proche des personnes qui vivent autour des artistes. Les artistes vivent aussi sur des territoires. Et puis il y a l'idée d'avoir des moments conviviaux aussi, d'abolir cette possible distance. Des fois ça peut être impressionnant d'aller parler à des comédiens, des comédiennes. C'est aussi un temps que vous imaginez très convivial.
Oui. Ouais, on part vraiment de nos ressentis. En fait, nous deux, même en tant que comédiens, on n'est pas à l'aise... Après, à faire des retours, en fait, à parler avec les autres comédiens. Et du coup, on part vraiment du principe que il faut abolir un peu ce truc sacré, l'artiste intouchable. Et c'est vrai, en fait. Et du coup, c'est bête, mais par des valeurs très françaises qui sont la nourriture et la boisson alcoolisée et non alcoolisée, je tiens à le souligner. C'est partager un moment simple, en fait, convivial, tous populaire. Ensemble, populaire, entre bénévoles, artistes, producteurs, artisans d'art, et que tout ça, ça se mélange et ça échange sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de vie, leur philosophie, leur façon de voir le monde. Et même si je pense qu'il va y avoir des différences dans les propos, des philosophies différentes, on en ressort différent. Et c'est ce qu'on veut faire, en fait.
On a volontairement quelques spectacles qui sont politiquement engagés, et c'est aussi dans le but de créer ces débats et ces échanges-là. On essaie de proposer des choses...
Des points de départ de discussion.
Oui. Peut-être un peu plus radical que ce qui peut se voir dans des programmations plus classiques, entre guillemets. Et donc entraîner le débat avec ça, ouais.
Ouais, pousser les curseurs un peu plus loin. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Anne-Claire ?
Oui, qu'avec la programmation, on a voulu faire passer le message de c'est quoi une pensée complète ? Parce que voilà, on accueille par exemple une conférence où on sait que le propos il est politique, il est développé de A à Z, et même si on n'est pas d'accord, eh bien en tout cas la pensée se tient. C'est pas une pensée molle. Et c'est ça, penser, en fait. C'est aussi tenir une argumentation, l'expliquer, et ça passe. Ça fait un peu une médiation, en fait, pour les spectateurs de voir comment s'articule un discours, et après on peut en parler. Donc c'est s'appuyer sur des objets bien ancrés.
C'est vraiment un croisement, en fait, ce festival. Il y a plein de choses. Enfin, on peut venir pour le spectacle, on va rester pour une conversation. Comment se passe un peu le déroulé type de chaque soirée? La programmation qui est au cœur, les lieux qui sont à découvrir, des producteurs, des productrices avec ce qu'ils fabriquent, des artistes aussi. Comment ça se passe, une soirée?
À 18h, on a l'ouverture du lieu, avec de 18h à 20h un marché où il y aura justement les producteurs, les artisans locaux. On a aussi la Topette, le journal La Topette, qui vient sur le lieu. On a un torréfacteur, on a des tas de disciplines différentes, comme ça. Et pendant ce marché, il y a une première partie musicale qui anime un peu le marché, comme ça, soit on déambule, soit on s'arrête pour regarder plus attentivement ce que les musiciens font. Dans certains lieux, il y a la possibilité de visiter le lieu. Par exemple, l'ouverture se fait au manoir de la Groix, à Saint-Saturnin, et il y a un très très beau jardin. Et les propriétaires nous ont dit que voilà, ça pouvait être l'occasion pour ceux qui viennent de découvrir aussi ce très beau jardin. Et ensuite, à 20h, on aurait le spectacle, un peu le clou de la soirée, entre guillemets. Et le spectacle se terminera à chaque fois vers 21h, 21h30. Et après ça, on proposera aux spectateurs de rester pour justement échanger avec les artistes, échanger entre eux sur ce qu'ils ont pensé du spectacle. On aura des food trucks sur place qui ouvriront pendant le marché et qui auront la possibilité de réouvrir après le spectacle, si jamais des gens veulent manger après le spectacle. Et ensuite, la soirée se terminera quand elle se terminera.
Tranquillement.
On espère pas trop trop tard pour pouvoir se coucher et dormir un peu.
On verra.
Voilà, on verra.
Donc effectivement, il y a ces food trucks. On peut aussi venir. Donc le tarif pour chaque soirée, c'est 5€. Ça aussi, oui. C'est un choix que vous avez fait d'avoir des soirées qui sont accessibles, en tout cas pas avec un prix trop élevé. Il y a même de la restauration si on a envie. Mais ça, il faut réserver avant.
Oui, c'est ça. L'entrée, en fait, il y a une entrée à 5€ où on a le marché gourmand, la première partie musicale et le spectacle de 20h. Et il y a un deuxième prix qu'on fait, c'est 8€, où là, en fait, on propose une planche gourmande, une planche dégustation des produits locaux. Donc, et avec 8€, il y a le marché, la première partie musicale, la planche gourmande et le spectacle de 20h.
Et c'est bien une planche dégustation. C'est vraiment, il y a des petits échantillons d'un chocolatier, d'un fromager, d'un boulanger.
Plein de très bonnes choses.
Et voilà, plein de très bonnes choses. Oui. C'est des produits faits dans le coin. Et voilà, c'est pour déguster vraiment ces produits-là.
Ouais, toute la démarche va ensemble. J'aimerais qu'on se penche un peu sur la programmation, les spectacles ou les propositions, parce qu'on a parlé de conférences, de lectures théâtralisées aussi, ça c'est possible. Au niveau de la programmation artistique, qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant, sachant que c'est aussi beaucoup de compagnies, voire uniquement locales ou régionales?
Oui. Toutes les premières parties musicales, on a voulu faire un peu une scène émergente, locale. Donc voilà, toutes les premières parties musicales, c'est des jeunes et même des moins jeunes qui se produisent pour leur première fois. En tout cas, c'est le spectacle qu'ils font pour la première fois. Et donc, sauf pour me passer solo, c'est des...
Les Bourvilles aussi.
C'est des plus habitués, et sauf les Bourvilles. Ouais, ok, bon, en fait, il y a un peu d'émergents de locaux et un peu des plus habitués. Mais l'idée, c'était de faire une scène locale quand même. Et puis, à 20h, c'est des spectacles, pareil, de locaux où on a voulu... comme le Poulpe, on est pluridisciplinaire, toujours avoir cette patte-là. Donc, il y a des lectures, il y a de la marionnette, un concert lecture, du théâtre pour enfants. On a voulu être éclectique dans la programmation. Et puis, comme l'année dernière, toujours avoir un spectacle politisé. Et on a cette année quand même deux spectacles politiquement incorrects.
En tout cas, qui questionnent. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, savoir un peu?
Quentin fait partie de l'un d'eux, donc vas-y.
Le 29 juillet, par exemple, c'est Les Évadés, dont je fais partie. On est un duo de clowns, je dirais. On fait de la musique joviale et insolente. Très joviale et parfois très insolente. Et en fait, on sort notre deuxième album, l'album inclusif. Et donc, l'idée de cette date, ce serait de présenter cet album. Et normalement, il sera en vente. Si tout va bien, le CD sera sorti et on pourra le vendre sur place. Donc voilà, ça par exemple, ce n'est pas pour les enfants.
Parce que oui, vous brassez des sujets d'actualité et de société, donc qui parlent du féminisme.
En fait, l'idée de ce duo-là, c'est de dire que dans le fond, on peut rire de tout, on peut désamorcer un peu les choses et se marrer même avec des sujets qui aujourd'hui font état de passion et parfois de clivage. Nous, on les prend et puis on dit on fait des blagues avec ça.
Des blagues et des chansons, voilà.
Ouais.
Ça s'annonce un peu explosif, mais assez réjouissant. Le 1er juillet, c'est aussi la Compagnie du Poulpe qui ouvre le festival avec La Métamorphose. Je crois que c'est un spectacle qui est hybride aussi, qui mélange plusieurs choses. Peut-être, Anne-Claire, tu peux nous en dire deux mots.
Oui, c'est un concert lecture. Donc en fait, je suis à la lecture. On a vraiment pris la nouvelle de La Métamorphose de Kafka. On a fait des coupes. Et donc le spectacle dure une heure. Et en fait, je suis accompagnée de deux musiciens. Donc un qui est au saxophone, clarinette et machine électronique. Et un autre qui est guitare-basse. Et donc l'ambiance musicale est avec des sons planants et un peu berlinois techno. Et donc ça dure ça dure une heure et c'est hybride même dans la lecture. On a pris beaucoup de distance avec l'histoire, donc il y a même un peu d'humour qui se glisse dans Kafka, donc on prend beaucoup de plaisir à faire ce spectacle. Il est très intimiste, très doux, mais en même temps il grince un peu parce que la nouvelle est pas
hyper
très
fun.
Donc c'est un concert lecture.
De La Métamorphose. Chouette. Je mentionne quand même la date qui est pour tous les publics et notamment les plus jeunes. Ce sera avec Le Royaume de Mirepoux. On sera le 8 juillet, ça vous l'avez dit. C'est important aussi pour vous d'avoir des programmations qui s'adressent même aux tout petits, aux enfants.
C'était important, mais en même temps, on tenait à avoir une majorité de spectacles tout public, parce que mine de rien, dans les milieux ruraux, c'est très souvent du jeune public qui est programmé. Et on voulait aller un peu, pas contre ça, mais en tout cas, proposer qu'il y ait vraiment du tout public, pouvoir parler à tout le monde, et garder quand même ce spectacle jeune public que nous, on a vu et qu'on a beaucoup aimé. Et voilà, essayer de le faire découvrir encore un peu plus. Il a déjà pas mal tourné ces derniers temps. Là, ça fait un peu de temps qu'on ne l'a pas vu sur scène, mais c'est un plaisir pour nous de l'accueillir et puis de le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas encore.
Il y a donc cette soirée, et ce que je trouve intéressant, c'est un peu le cocktail que vous imaginez sur chacune de ces soirées, entre le spectacle, la musique, les rencontres avec les producteurs, les productrices, les échanges, et les lieux aussi du patrimoine. Comment vous avez choisi ces lieux-là, qui sont beaucoup en bord de Loire, autour de la Loire aussi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir si vous nous emmeniez en voyage?
Vas-y,
Quentin.
On est parti sur l'idée de l'entre-deux-rives, donc avec la Loire au milieu. Et en lieu, on a des théâtres de verdure, comme le théâtre de verdure d'Andard et le square Hélène de Surgères à Brissac. Le square Hélène de Surgères est très sympa, il donne sur l'Aubance, et le théâtre de verdure d'Andard, il me semble, est juste à côté de l'Othion, si je ne me trompe pas. On a le Domaine Escogriffe à Couture, que donc le vin, c'est quand même très... local. Enfin, en tout cas, on a pas mal
on
de vignes par chez nous.
On est dans une région viticole, oui, c'est sûr.
Et en plus, ce domaine a pas mal de troglodytes à l'intérieur. Et pareil, la troglodyte, c'est très typique de nos régions. Et on a des lieux aussi qu'on a pris plus pour leur beauté. Par exemple, la chapelle de la Salette à Loire-Authion, qui est vraiment une très très belle chapelle avec des tas de sculptures qui viennent la décorer.
Il y a le manoir de la Groix à Saint-Saturnin-sur-Loire le 1er juillet. C'est un monument historique qui fait aussi chambre d'hôte. Et c'est là où on peut visiter les jardins notamment. Et puis le 29 juillet, c'est un plan d'eau à Chemelier qui est très très peu utilisé. Et on habite à Chemelier, on passe tout le temps devant. Et en fait, c'est aussi l'envie de faire quelque chose de ce plan d'eau qui est très peu exploité. Donc voilà, on a choisi nos lieux en fonction aussi de leur utilisation. On ne voulait pas des lieux ultra connus. Par exemple, le château de Brissac où il se passe toujours plein de choses. Ben, on s'est dit non, on prend un peu le contre-pied. Il y a d'autres lieux à visiter. Donc c'est comme ça qu'on a choisi nos lieux.
À chaque fois, les soirées se déroulent en extérieur aussi. Est-ce que c'est compliqué de jouer en dehors d'une scène bien balisée que vous connaissez, d'une salle confortable aussi? Comment ça se passe? Est-ce que c'était un désir aussi pour vous de changer un peu d'habitude et d'espace?
Le fait d'être en extérieur, je pense que c'est plus pour l'aspect festival.
Oui.
Voilà, on reste dans cet aspect un peu fête populaire. Je sais pas si on aura des lampions et tout ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Le fait de jouer en extérieur,
ça nous perturbe pas trop.
Ça nous perturbe pas trop. sur tous les artistes qui ont été invités, on n'a pas eu de retour comme quoi c'était quelqu'un se sentait en danger. Donc
ouf. Tout va bien. Bon, après, ils ont tous l'habitude. Hein.
Oui, c'est ça. C'est des Ils sont quand même rodés.
Ouais. Et peut-être pour un peu terminer cette boucle de programmation qui va à plein d'endroits, les producteurs et les productrices que vous avez invités, comment est-ce que vous les avez choisis? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir aussi? Il y a du miel, par exemple, j'ai pu voir ça. Il y a du café, vous l'avez dit tout à l'heure, si on fait un petit tour d'horizon.
En fait, on a lancé un appel à producteurs sur les réseaux où chaque producteur, artisan d'art, peintre pouvait en fait postuler. Et ensuite, on a fait tout simplement les marchés avec Quentin. On allait de stand en stand, parler du festival, parler de notre philosophie. Et s'ils étaient intéressés, bien, ils s'inscrivaient. Donc on a une fromagerie, la fromagerie Giraud, qui fait son propre fromage de chèvre. On a le torréfacteur, on a le Biocamion, qui est une épicerie ambulante qu'en vrac et que locale. Voilà, on a du miel, on a des rillettes bio, on a une peintre qui habite à Grésillier, qui fait aussi de la mosaïque, on a une autre artiste peintre qui est plus dans la BD, qui est aussi du coin. Donc en fait, c'est aussi au fur et à mesure de nos créations, n'empêche, de nos spectacles, qu'on rencontre aussi des artistes locaux qui n'ont pas forcément de visibilité. Et qui se sont inscrits. Et en fait, c'est vraiment au fil des discussions. Et on s'est rendu compte que les producteurs locaux avaient déjà beaucoup de visibilité grâce aux AMAP. Et s'il y a
beaucoup de travail,
ouais, beaucoup de travail, ils sont vraiment débordés. Et donc, on a appris nous aussi à faire la différence entre producteurs, transformateurs. Et donc, on s'adresse plus à des transformateurs au final, parce que le produit, il est déjà là, et c'est eux qui ont le besoin de plus de visibilité. Donc, nous, on a aussi appris sur ce milieu-là, en fait, qu'on ne connaissait pas trop.
Je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais par rapport au fil de nos créations. Il y a une grosse base pour le festival qui vient justement de toutes ces rencontres qu'on a faites. On connaît beaucoup des artistes qui viennent. On a fait appel à beaucoup d'amis et de connaissances, mine de rien, pour constituer la grosse base du festival.
Ouais, le réseau du poulpe.
Ouais.
Ouais, mais en fait, ça nous tient hyper à cœur. Enfin, moi, ça me tient à cœur de développer une bande. Et j'ai l'impression que je fais ça depuis que je suis petite. Je connais ton univers, je sais de quoi tu parles, je sais comment tu joues. Vraiment connaître le sujet, en fait, connaître leur philosophie, ça me tient beaucoup à cœur de connaître, en fait.
Et on revient un peu à cette question de solidarité aussi dans la durée, de soutenir le travail des autres, des voisins.
Ouais, parce que c'est un milieu très instable, l'artistique. Et je pense qu'on a besoin en fait de de créer une stabilité, des gens sur qui on peut s'appuyer, qui nous le rendent et on leur rend, enfin vraiment une un réseau sympathique.
Et puis on pourra voir aussi la porosité entre la création, la transformation, vous l'évoquiez, la production, manger, enfin il y a aussi plein de ponts qui peuvent se faire.
Oui.
Peut-être pour se quitter, pour réserver, il y a une billetterie en ligne via Hello Asso qu'on peut retrouver sur vos réseaux. C'est mieux de réserver longtemps en avance, on peut venir sur place, on ne sait pas trop.
Bah, c'est mieux de réserver.
Oui, surtout pour la planche gourmande, c'est uniquement sur réservation. Parce que là, on fait vraiment, selon le nombre de réservations qu'on a, on prend telle quantité de produits pour faire les planches.
Ouais.
Mais c'est mieux de réserver, c'est sûr.
Oui, il y a tout sur notre site compagniedupoulpe.net. Il y a le lien Hello Asso, il y a notre mail, le téléphone, donc il y a plein de moyens de réservation. Et après, on peut venir sur place le jour J, il n'y a pas de problème.
Super. Bon, bah, merci beaucoup Anne-Claire, merci beaucoup Quentin.
Merci.
Je redonne les infos, donc c'est le festival du sous-marin, si vous débarquez à l'instant dans l'émission. C'est tous les jeudis, entre le 1er juillet et le 12 août, dans 7 lieux différents, sur les communes de Brissac, Loire-Aubance et Loire-Authion. Et toutes les infos sur le site de la Compagnie du Poulpe qui organise le festival. Merci beaucoup à vous deux. On va écouter un titre de Polo & Pan avec Channel Trees. C'est leur dernière sortie. Il s'appelle Tunnel. J'espère qu'il vous plaira.
Allez,
c'est parti. écoutez l'oreille curieuse sur le 101.5 FM, la fréquence de Radio G. On était avec Polo and Pan et maintenant on va parler de psychologie avec le Prêt-à-penser, la chronique réalisée toutes les deux semaines par Nicolas, psychologue de son état, c'est donc l'expert de cette émission. Je le remercie, on va encore apprendre plein de choses, c'est certain.
Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection, quoi.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouveau Prêt-à-penser, la chronique psy de l'oreille curieuse. Je suis Nicolas et aujourd'hui je vais vous parler d'un projet de loi dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias ou sur internet, un projet visant à rendre remboursables les consultations chez les psychologues. Alors vous savez que jusqu'à présent, seules les consultations auprès d'un psychiatre étaient remboursées du fait de la qualité de médecin du psychiatre. Et actuellement donc, il y a un projet qui vise à élargir le champ des consultations remboursables et à y inclure celles des psychologues. Alors c'est une grande nouvelle, hein, très attendue de la part des psychologues qui demandent à ce que leurs consultations soient remboursées depuis très longtemps. C'est aussi un sujet qui est en lien avec la crise sociale et psychologique sans précédent liée à la Covid-19. Et donc ça montre quand même que les psychologues, de par cette crise que nous avons tous traversée, ont été identifiés comme des acteurs essentiels de la santé mentale. Bon, bien évidemment, ça montre aussi autre chose. S'il y a ce projet de remboursement, c'est aussi, et peut-être même en premier lieu, pour désengorger les filières de consultation médicalisées qui sont absolument saturées en ce moment, mais elles l'étaient déjà avant la crise de la Covid-19. Donc, ça n'a fait qu'amplifier un phénomène de saturation qui rend les listes d'attente absolument interminables et les délais surtout de consultation pour les patients insupportables. Alors, on aurait pu s'attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce que les psychologues soient absolument ravis de cette nouvelle, puisque, comme vous l'avez vu circuler de façon très succincte, dans des titres vraiment d'accroche, le fait que les consultations chez les psychologues soient remboursées, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Malheureusement, peut-être si vous suivez aussi ce qu'il en est des réactions des psychologues suite à ce projet, vous aurez pu vous rendre compte qu'il y a une certaine gronde de la part des psychologues, une certaine insatisfaction quant aux modalités en fait qui vont encadrer ce processus de remboursement. Alors, vous pourrez peut-être penser que les psychologues, finalement, ils sont jamais contents. Déjà qu'on leur donne un plus par rapport à ce qu'ils avaient déjà, ça pourrait être une première étape vers quelque chose qui pourrait ensuite peut-être s'amplifier. Mais je vais tenter de vous expliquer dans cette chronique qu'il y a vraiment des motifs d'inquiétude importants et à côté desquels il ne va pas falloir passer, ni en tant que psychologue, ni en tant que professionnel de santé, mais surtout pas en tant que patient ou patient potentiel. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce projet de remboursement, il vise à désengorger les filières médicalisées vers des filières non médicales. Donc ça, déjà, c'est pas banal, parce que je rappelle que les psychologues ne sont ni médecins, ni identifiés au paramédical. Donc c'est un projet de loi de remboursement qui vise à déplacer un certain nombre de consultations du médical vers le non médical. Et ça, habituellement, c'est pas forcément vu d'un très bon œil par les médecins, car cela fait échapper à leur contrôle un certain nombre de prises en charge relevant de la santé publique, dont ils sont identifiés socialement comme les garants, notamment par la veille de leur ordre, l'ordre des médecins, qui exerce une vigilance, y compris sur les médecins eux-mêmes d'ailleurs. Donc en résumé, la médecine, en général, elle n'aime pas trop déléguer en dehors de son champ, et encore moins vers des disciplines qui n'utilisent pas les mêmes référentiels ni la même méthodologie. Et c'est le cas d'un certain nombre d'approches que pratiquent les psychologues et un certain nombre d'approches psychothérapeutiques. S'agissant du corps, c'est très clair. La médecine a légalement le monopole du corps. Et quiconque intervient sur le corps au-delà d'une certaine limite légalement très cadrée peut être condamné pour exercice illégal de la médecine. Mais pour ce qui est du soin psychique, en revanche, ce n'est pas le cas. Je vous renvoie à un précédent Prêt-à-penser sur la législation autour du titre de psychothérapeute qui permet son utilisation par des non-médecins comme les psychologues, en l'occurrence, ou les psychanalystes. Alors la Cour des comptes, à l'origine de ce projet de remboursement des psychologues, s'est retrouvée devant ce problème. Comment faire tenir cette nécessité de désengorger les filières de consultation médicale vers des filières non-médicales, mais sans désavouer l'autorité médicale en matière de soins? Eh bien pour cela, il a été élaboré un protocole, un parcours pour permettre aux patients d'accéder au remboursement des consultations chez un psychologue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il vous suffira de renvoyer une facture établie par un psychologue pour être remboursé, ce serait trop simple. Mais il vous faudra au contraire effectuer des démarches en amont de la consultation pour pouvoir prétendre à un remboursement. Et devinez quoi ? Au tout début de ce parcours, il y a un médecin. Et pas n'importe quel médecin, un médecin généraliste qui n'a, c'est pas lui faire injure de dire ça, aucune formation en matière de psychopathologie. Voici donc le parcours qui est établi, je vais vous le présenter, établi à ce jour, et vous allez vous rendre compte à quel point la notion de contrôle médical y est présente. Je rappelle quand même que les psychologues sont diplômés d'État, donc on ne sort pas d'école un peu mystérieuse ou obscure, on est diplômé d'État, titulaire d'un master de psychologie, soit au minimum Bac plus 5. Alors, première étape du processus d'ouverture vers le remboursement des consultations. Premièrement, le patient va consulter son médecin généraliste, je l'ai dit tout à l'heure, qui va évaluer si le motif de consultation psychologique correspond à des critères préétablis qui donneraient droit donc à passer à l'étape 2. Donc dans le cas où, ce motif de consultation répond aux critères, le médecin fournit au patient une liste de psychologues rentrant dans le cadre de ce protocole. Le patient devra effectuer une consultation chez un de ses psychologues qui fera ensuite une évaluation qu'il devra faire parvenir en retour au médecin généraliste. Le médecin généraliste, qui n'a, je le rappelle, aucune formation en matière de psychopathologie, décide alors si la prescription est pertinente. S'il la juge pertinente, il prescrit au choix soit 10 séances maximum dites de soutien, et c'est un terme qu'il faut différencier de la psychothérapie, je vais y revenir juste après. Donc 10 séances de soutien, chacune d'une durée de 30 minutes, et pour bénéficier de consultations dites, non plus de soutien mais de psychothérapie, c'est-à-dire quand il est admis qu'une intensité de souffrance manifeste nécessite une prise en charge dépassant la simple notion de soutien, il faudra au patient, qui porte très bien son nom en l'occurrence, il lui faudra patienter le temps qu'il faut pour être vu en consultation par un psychiatre. Rappelons qu'ils sont absolument saturés, ceux d'entre vous qui ont tenté peut-être une consultation chez un psychiatre de ville en savent quelque chose, ils sont tellement saturés que c'est ça qui provoque ce projet de remboursement des consultations chez les psychologues. Donc il faudra être patient dans sa souffrance, et si ce psychiatre confirme l'impression du médecin généraliste d'une nécessité de psychothérapie, autrement dit, je le dis avec un petit peu d'ironie, passer aux choses sérieuses, hein, parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait cette différence entre le soutien et la psychothérapie, hein? Est-ce que le soutien, c'est un petit peu les demandes pas très sérieuses, en tout cas des choses légères, voilà. C'est très difficile à évaluer, les psychologues en savent quelque chose. Souvent, sous les choses légères se cachent des vrais problèmes, et ça demande du temps, et un peu plus que 10 séances de 30 minutes. Enfin bref, passons. Donc si le psychiatre confirme l'impression du médecin généraliste, eh bien, vous l'aurez compris, c'est le médecin généraliste qui pourra prescrire, toujours jusqu'à 10 séances, hein, pourquoi plus après tout, hein, apparemment les choses se font en 10 séances, ça a l'air d'être admis, et cette fois-ci quand même, parce que c'est sérieux, n'est-ce pas, non pas 30 minutes, mais 45 minutes la séance. Donc vous l'aurez compris, les psychologues dont je fais partie, eh bien, ils ont été un petit peu déçus par cette proposition concernant un projet de remboursement attendu de longue date. En dehors du fait que nous sommes, me semble-t-il, en droit d'être un petit peu offensés par cet hyper-contrôle médical qui semble remettre en question notre légitimité de diplômé d'État et notre expertise en matière de santé mentale, nous sommes également préoccupés par les effets sur nos patients d'un tel parcours du combattant. Nous savons à quel point il est difficile pour la plupart de faire les premiers pas d'une démarche de consultation, de s'autoriser à demander de l'aide à un tiers sur un plan personnel, voire intime. La place centrale du médecin généraliste pose également, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas manqué de vous le dire, une question majeure de légitimité au regard de leur formation initiale. Et au-delà de cette place, le parcours lui-même risque d'inciter les psychologues évaluateurs, vous savez, ceux qui correspondent à l'étape 3, à parler la langue du médecin et à diriger leurs méthodes vers des approches évaluatrices, normalisantes et des méthodes thérapeutiques courtes, pouvant répondre au nombre limité de séances et à leur durée. Les méthodes rééducatives, entre guillemets, si on comprend qu'elles soient les plus évocatrices pour les médecins généralistes, car plus proches de leur modèle de pensée, vous savez, les médecins généralistes, ils guérissent, donc les méthodes rééducatives, elles apportent des progrès concrets à un certain niveau, celui du comportement, mais sont-elles toujours ce que le patient vient chercher quand il engage une démarche de psychothérapie? Par cette standardisation des approches remboursées, n'est-on pas en train de créer un fossé entre des approches psychothérapeutiques rapides et courtes, accessibles au plus grand nombre, et d'autres, plus profondes, plus longues, qui seraient de ce fait réservées à ceux qui peuvent se les payer, sans remboursement? Autant de questions que chaque citoyen est en droit de se poser, pas seulement les professionnels de santé. Il est donc primordial de se pencher de près sur ce qui se cache derrière les effets d'annonce actuels, qui ne présentent, bien évidemment, que la partie séductrice de ce projet. Il existe actuellement, et je vous invite à aller les parcourir, un certain nombre d'articles et des pétitions en ligne sur ce sujet, s'il vous intéresse. C'est la fin, non seulement de ce prêt-à-penser, mais aussi de cette saison de prêt-à-penser que j'ai eu le plaisir de vous présenter. J'aurai également plaisir à vous retrouver, peut-être, je l'espère, à la rentrée, pour continuer à réfléchir avec vous, sans prise de tête, sur des questions de psychologie. En attendant, vous pouvez retrouver les podcasts de cette chronique et de toutes les autres sur le site internet de Radio G et y réagir, si vous le souhaitez, sur ma page Facebook Nicolas Andrades, psychologue. Au revoir à tous et peut-être à la rentrée.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux. Super.
Merci beaucoup Nicolas pour cette ouverture, pour cette saison radiophonique. On aura plaisir à te réécouter en podcast, bien sûr, et sans doute peut-être... Nous le souhaitons à te retrouver la saison prochaine. C'est la fin de cette émission également. La dernière émission de la saison, et la dernière pour ma part, aura lieu la semaine prochaine. On est dans les comptes à rebours. Vous savez tout. Si vous avez envie de réécouter des choses, de retrouver des infos sur nos invités de ce soir, tout se passe sur le podcast, en ligne à la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G. On se retrouve demain à 18h10. Il sera question de cinéma avec Margot, d'étoiles plein les yeux, et de littérature avec Luc et la chronique Dans le bruissement des feuilles. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, nous suivre, nous tout ce que vous voulez sur les réseaux, sur le site de Radio G. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. FM.
I'm fucking losing it. All my friends are used to it. I'm not amused to shit. Running off some looted shit. See if people notice it. Wallet in this parking lot. Show up on the news at 6. Stepping from the status. I got my soda. Somebody wanna force it. I got the Yoda here. The vultures getting hungry. I hear them coming. If they wanna come and get me, I'll give them some.
suis un fremont.
C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie est studentine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'eau. Trop de mecs nous bassinent, c'est comme dans Matrix, le règne des machines. Du rap ne subsiste que le bashik. La mort de Pavlos Fissat, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques. L'histoire ne se répète pas mes rimes. Abîme toujours les mêmes, drôle de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles. Ghetto, terre, terre et guerre intestine. J'suis né dans le pays de la guillotine. Muslim et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine? Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine? Mon cœur cesse de battre parfois, c'est la routine. Est-ce dans ça qui discrimine? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République? La République, lyricalement, j'suis un strumon. J'suis un strumon. Lyricalement, j'suis un strumon. J'suis un strumon. Lyricalement, j'suis un strumon. J'suis un strumon.